Bonsoir à tous et bienvenue à l'écoute d'Alter Echo, comme chaque semaine. Aujourd'hui, c'est Nicolas au micro. En effet, mes deux collègues sont loin de Bruxelles. Olivier découvre la poudreuse. Quant à Nico, il est actuellement à Barcelone pour y suivre le sommet européen. Un sommet hyper sécuritaire, car Aznar a demandé la tolérance zéro face aux manifestants et une police qui est priée d'utiliser les balles en caoutchouc plutôt que des gaz lacrymogènes. Et puis quoi encore, on n'est pas au pays des bisounours. Courage Nico. Vous le savez déjà, mais je vous le répète, Alter Echo, c'est tous les mercredis soirs sur Radio Campus 107.2 FM à 22h. La rediffusion, c'est tous les vendredis à 14h, toujours sur Radio Campus. Et la rediff, c'est aussi sur Radio Panique 105.4 FM le mardi à 10h du matin. Sans oublier le site internet d'Alter Echo, www.collectif.net/alterecho. Aujourd'hui, nous reviendrons sur la lettre des 60 intellectuels américains qui soutiennent corps et âme la guerre de George W. en Afghanistan et de manière générale la guerre contre le terrorisme. En Belgique, le professeur de l'ULB Guy Archer a soutenu cette lettre. Nous lui demanderons pourquoi. Cette fameuse lettre a fait déjà couler beaucoup d'encre, surtout de l'encre américaine. 60 intellectuels américains, donc pour la plupart des enseignants des grandes universités, des grands instituts américains, ont signé cette lettre en faveur de la guerre. La lettre commence par la phrase suivante « Il est parfois nécessaire pour une nation de se défendre avec les armes ». Ensuite, les intellectuels émettent 5 vérités fondamentales que je vais citer. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité. Le sujet fondamental de la société est la personne humaine. Un gouvernement a pour rôle légitime de protéger, d'entretenir les conditions de l'épanouissement humain. Les êtres humains sont naturellement enclins à chercher la vérité sur le sens et les fins dernières de la vie. La liberté d'opinion et la liberté de culte sont les droits inviolables de la personne humaine. Enfin, tuer au nom de Dieu est contraire à la foi de Dieu. C'est la plus grande trahison de l'universalité de la foi religieuse. Voici ces 5 belles conditions. Et moi qui disais qu'on était au pays des bisounours, ben on y est directement. Car en réalité, les intellectuels en viennent rapidement aux valeurs américaines qui sont d'après eux la dignité humaine, les vérités morales universelles. Les désaccords sur ces valeurs doivent être discutés avec civilité et tolérance, sur la foi d'une argumentation raisonnable. Enfin, ils émettent également la liberté d'opinion et de culte. Là, on est toujours dans le rose bonbon. Et puis la lettre cite qu'ils demandent une guerre juste. Ils en viennent donc à une phrase tout à fait légendaire maintenant. Face au mal, la meilleure riposte consiste à y mettre fin. Et alors, on se rend compte que dans les signataires de la lettre, on a Samuel Huntington, Francis Fukuyama, l'ancien sénateur démocrate Daniel Moyen, Michael Walzer et Amitsai Ezioni. Voici quelques noms parmi ces 60 intellectuels. On constate en général que ce sont des professeurs, donc des instituts de sciences politiques, les mêmes professeurs qui ont finalement pensé à cette fameuse guerre juste ou à ce concept de choc des civilisations. Revenons dans notre vieille Europe et plus précisément dans notre petite Belgique. Là également, certains intellectuels ont soutenu cette lettre. C'est le cas de Guy Archer, président du Centre de philosophie du droit à l'ULB. Il a soutenu corps et âme également cette lettre. Nous lui avons demandé pourquoi il soutient la proposition belliciste de ses 60 intellectuels.
La nouveauté de cette lettre, c'est que jusqu'il y a quelques jours ou jusqu'il y a quelques semaines, les camps les plus visibles de ceux qui réagissaient aux événements du 11 septembre, c'était soit ceux qui avaient une attitude pro-Bush, anti-musulmane, etc. C'était d'ailleurs des préjugés qui existaient auparavant, soit au contraire ce que j'appelle l'anti-américanisme primaire, c'est-à-dire ceux qui étaient anti-américains et qui considéraient que pour finir, non seulement tout ça, le terrorisme, c'était les effets du système de la mondialisation d'origine américaine qui poussait, qui créait des inégalités, qui poussait les peuples musulmans en particulier à la révolte, et donc vous aviez deux discours complets, les uns qui disaient le terrorisme c'est la faute à l'islamisme, mais le verre est dans le fruit, l'islamisme c'est l'intolérance de l'islam, et ceux qui disaient c'est la faute à l'Amérique. Et je trouve que, et donc évidemment cette différence d'interprétation se répercutait dans la réaction, ceux qui considéraient que c'était la faute à l'islamisme et même à l'islam étaient d'accord avec une réaction militaire dure, ceux qui, au contraire, chargeaient l'Amérique, à la limite, ne voulaient pas de guerre du tout. Et je trouve que cette position-là est une position intelligente parce que c'est un soutien critique. C'est-à-dire, ils ne disent pas du tout, nous soutenons la guerre du gouvernement Bush. Beaucoup d'entre eux n'auraient jamais voté pour Bush. Et moi non plus, bien entendu, si j'étais américain. Mais c'est Bush qui est président des États-Unis, c'est lui qui mène la guerre et ils essayent de dire quelles sont les conditions d'une guerre juste. Et je pense que je peux m'accorder avec eux, puisque l'argument essentiel, c'est quand même pas la vengeance, mais l'idée de prévenir des victimes innocentes dans le futur en démantelant le réseau Al-Qaïda.
Mais est-ce que justement vous trouvez qu'on sort de ce manichéisme? Parce que moi, il me semble que dans cette lettre, bon, les auteurs érigent un certain nombre de valeurs qu'ils estiment universelles. Et bon, c'est vrai que ce sont des valeurs assez, je dirais pas consensuelles, mais qui peuvent prêter à l'universalité. Mais c'est vraiment opposer ces valeurs-là au mal qui nous est venu le 11 septembre. Et on a l'impression que question analyse, c'est un peu court à certains points de vue. On peut revenir sur des points précis, mais vous pouvez déjà réagir.
Je pense qu'il y a deux choses. Il faut d'abord une autocritique de l'Amérique. On peut considérer qu'elle n'est pas suffisante ou d'ailleurs, ils ne critiquent pas l'islam. Ils font une autocritique, donc ils critiquent la position de l'Amérique de deux points de vue différents et ils ne disent rien sur l'islam. Ils disent l'islam, ce n'est pas l'islamisme, l'islam, ce n'est pas l'extrémisme. Alors sur l'Amérique, ils disent deux choses. Ils disent, un, nous avons des idéaux qui sont des idéaux universels. Les droits de l'homme, le gouvernement par le consentement et des choses comme ça, les idéaux fondent de la déclaration d'indépendance. Et d'une certaine façon, c'est au nom de tous ces idéaux-là que les grandes révolutions se sont faites ces deux derniers siècles. Et que ces idéaux aient une valeur universelle, bon, ça se discute, mais enfin, quand même, on peut l'accepter. Ils disent, nous ne sommes pas toujours fidèles à ces idéaux. Parce qu'évidemment, c'est l'argument des gens qui consiste à dire, c'est très bien de défendre ces idéaux révolutionnaires, mais le Vietnam, mais Pinochet, etc., etc. Et deuxièmement, ils disent, nous avons même des idéaux, des valeurs dont nous considérons, nous acceptons qu'ils ne sont peut-être pas très, très acceptables, comme ils disent le consumérisme, ils pouvaient dire les valeurs matérielles, l'arrogance économique, etc., etc. Donc je trouve que là, ils sont assez autocritiques, ils disent, on a des idéaux, ceux-là sont bien, mais on ne les applique pas toujours, et il y a même des valeurs que nous devons critiquer. Donc ça, je pense que de ce point de vue-là, ils prennent une distance par rapport à l'Amérique et par rapport à l'administration Bush. Alors, est-ce que l'analyse est suffisante? Sans doute que non.
D'abord, est-ce que cette distance est suffisante? Parce qu'ils disent, il y a certaines valeurs qui nous déplaisent et l'Amérique n'a pas toujours, c'est à mon avis un euphémisme, appliqué ces valeurs-là dans sa politique étrangère. Mais pour le reste, toute la lettre, c'est, mais malgré ça, on doit y aller. La guerre juste existe et c'est le cas aujourd'hui. Est-ce que c'est pas un peu court? C'est pas se dédouaner en trois phrases pour le reste? Est-ce que le fait que ces valeurs ne soient pas respectées n'hypothèque pas un peu la valeur de cette lettre tout entière?
Écoutez, moi, je pense, bon, l'Amérique est la seule puissance mondiale. Et je sais très bien qu'on peut dénoncer à maints égards la politique américaine ayant un impact mondial que n'ont pas les autres politiques, étant donné la puissance de l'Amérique. Enfin, ils disent déjà quelque chose qui n'est peut-être pas suffisant dans l'autocritique de l'Amérique. Il n'y a pas un mot. Ils sont très politiquement corrects et très gentils avec ce qui est en face. Il n'y a pas un mot sur les régimes arabes, il n'y a pas un mot sur un élément quand même de forte intolérance dans l'islam contemporain, etc. Donc je
Dans
dirais.
l'islam en général ou l'islamisme, ou comment est-ce que vous voyez ça, cette terminologie?
Justement, je pense que, écoutez, bien entendu qu'il y a 1 milliard de musulmans et qu'assimiler les musulmans au mouvement islamiste, c'est totalement inacceptable. Cela dit, on ne s'en sort pas avec l'expression politiquement correcte, on ne s'en sort pas sans penser en disant l'islam n'est pas l'islamisme, ne croyez pas que, etc.
Mais c'est un peu ce qu'ils font dans la lettre.
Oui, c'est ce qu'ils font. C'est justement pour ça que je trouve que ils vont pas très loin dans l'analyse des relations entre le monde musulman contemporain et le phénomène islamiste. Je dirais que c'est pas un texte véritablement d'analyse, c'est un manifeste. C'est un manifeste dans lequel ils essayent de dire face à Al-Qaïda, nous ne pouvons pas rester au balcon et nous devons d'une certaine façon soutenir une guerre, bien que nous sachions que le gouvernement actuel est un gouvernement qui a d'autres buts stratégiques. stratégique, géopolitique et
Ça aussi, on y
politique
reviendra,
derrière.
mais ça aussi, il l'évacue en deux phrases, mais bon, on y reviendra.
Oui, non, je reconnais qu'ils le font peut-être rapidement, mais si j'avais été citoyen américain, j'imagine qu'on m'aurait demandé avec eux de négocier ce texte. Mais le texte, l'inspiration du texte, je trouve qu'elle est bonne parce que le fait que l'Amérique ait des responsabilités dans le monde ne justifie mais pas un moment les attentats aveugles sur des populations civiles. Et si ces attentats aveugles sur des populations civiles sont menés à grande échelle par un groupe qui est puissant, il faut le démanteler.
Juste pour revenir, parce qu'on va évidemment évoluer vers ça, mais juste pour revenir sur ces critiques que vous
Oui,
faites
oui.
aux signataires de la lettre, de ne pas tellement s'en prendre à l'islam. Vous en parlez aussi dans l'interview qui se trouvait dans Le Soir. Vous dites, en revanche, ils n'émettent aucune critique à l'égard des pays musulmans qui ont laissé se développer les mouvements fondamentalistes. On sait que la CIA a un peu développé Ben Laden au moment où les Russes étaient en Afghanistan, et si on veut prendre les Alliés aussi, ben on sait, parce que vous dites, notamment en les laissant prendre en charge les services sociaux de base, on sait que pour les Alliés des Américains, par exemple en Israël, Israël a laissé se développer le Hamas pour contrer le Fatah. Donc quelque part, c'est des critiques qui s'adressent aussi à ceux que vous voulez défendre en la matière.
Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute. D'ailleurs, je ne veux défendre ni l'Amérique ni Israël. Je veux défendre le droit à l'existence du peuple américain et de tous ceux qui se trouvaient à New York, et le droit à l'existence du peuple israélien et du peuple palestinien. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que, si vous voulez, les éléments que vous pointez, à savoir le fait que durant la guerre d'Afghanistan, durant l'invasion soviétique, l'invasion de l'Afghanistan par les Soviétiques, bien sûr que les Américains, dans le contexte de la guerre froide et de la fameuse théorie des dominos, si l'Afghanistan tombe, le reste tombera, ils ont été considérés comme combattants de la libération des gens qui étaient déjà des fondamentalistes. Donc il ne s'agit pas ici de justifier ou de la politique américaine à l'époque, mais il se fait que ça arrive souvent, et ils ont joué les apprentis sorciers. C'est-à-dire que, quelle que soit la stratégie en jeu, ils n'ont sans doute pas mesuré le fait que ça risquait un jour de leur retomber sur la tête. Hein? Donc, en armant des gens contre les soviétiques avec leur politique d'athéisme officiel, une politique d'ailleurs qui à un moment a libéré les femmes, c'était des régimes autoritaires, mais enfin, bon, qui a libéré les femmes, mais enfin, en luttant contre les soviétiques, ils ont cru que tous ceux qui luttaient contre les soviétiques, ou ils les ont utilisés en se disant que cette utilisation n'allait pas un jour leur retomber sur la tête. Et c'est pareil pour Israël. Quand Israël a essayé d'affaiblir l'OLP, en soutenant en sous-main le Hamas, il ne se doutait sans doute pas qu'à un moment le Hamas allait devenir tout à fait incontrôlable. Mais ce sont de petits éléments. Si vous parlez de, enfin, ce sont des éléments particuliers, mais si vous parlez de la montée de l'islamisme, la montée de l'islamisme, c'est tout autre chose et c'est beaucoup plus large. Et ça vient du fait que les régimes arabes se sont développés sur la base de l'idéal de l'État-nation. Donc les régimes arabes se sont libérés d'abord de la tutelle ottomane et puis de la tutelle britannique, mandat français, etc. L'idée a quand même été de faire des régimes qu'on appelait laïcs, mais enfin qui étaient des régimes, je dirais, dans lesquels l'islam était confiné dans une position de conseil. Donc c'était des régimes, même Nasser en Égypte, c'était un pays musulman, mais les oulémas étaient priés de se taire ou de ne pas faire de politique. Bon. Ces régimes ont échoué pour des tas de raisons, en particulier l'humiliation de Nasser quand il a perdu la guerre contre Israël en 1967, par leur corruption, par leur incapacité à gérer l'État, etc. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, le fondamentalisme qui existait toujours a commencé à se développer dans les années 70-80. Et une des grandes erreurs de ces régimes, qui sont la plupart du temps soutenus par les États-Unis, donc c'est aussi une critique des États-Unis, ce n'est pas des régimes modérés, ce sont des régimes qui sont gentils à l'extérieur, mais qui sont terriblement répressifs pour leur population. Et ces régimes ont écrasé dans le sang la révolte des islamistes quand ils ont attaqué les régimes eux-mêmes. Ça, vous avez eu ça en Syrie, vous avez eu ça en Tunisie, en Algérie, où là il y a face à face, ça n'en termine pas. En Égypte aussi, ils les ont écrasés dans le sang, mais pour que la bouilloire puisse, pour que la vapeur puisse sortir de la bouilloire, ils ont permis à ces fondamentalistes de s'en prendre à l'extérieur. Donc une image complètement déformée des États-Unis, d'Israël, même s'il y a une grosse responsabilité dans la politique américaine et israélienne. Et en plus, donc non seulement ils les ont laissés s'exprimer et éduquer les gens, parce que justement, malheureusement, ils ont laissé, je dirais, l'enseignement de base aux religieux. Et donc, on a déformé des générations entières. Et ça, c'est quand même quelque chose de terrible dans lequel il y a des responsabilités américaines, mais il y a aussi des responsabilités des régimes arabes et des intellectuels musulmans qui sont des intellectuels libéraux. Et c'est pas facile d'être un intellectuel libéral là-bas, le disent aussi. Nous n'avons pas de capacité d'autocritique, c'est terrible. Tous nos malheurs viennent toujours de l'étranger. C'est même l'intellectuel palestinien Edward Said qui a dit ça. Et ça, évidemment, c'est un énorme travail à faire à l'intérieur du monde musulman. Et ne pas toujours taper sur le monstre qu'est l'Amérique, ou sur Sharon, ou sur quelque chose comme ça. Et il y a à travailler des deux côtés. Et je trouve que les intellectuels américains, là, sont bien trop politiquement corrects. Ils battent leur coulpe, ils se critiquent, mais tous ces problèmes-là, ils ne posent pas les causes de la montée de l'islamisme. Et un défaut.
Mais bon, il y a quand même aussi, vous dites, ils doivent pouvoir faire leur autocritique, mais à mon sens, il y a quand même aussi une partie de ce que vous aviez l'air un peu de dénigrer au départ, c'est-à-dire de questions de mondialisation et de domination qui expliquent un certain succès de l'islamisme, parce qu'il y a, disons, des gens qui sont sensibles à l'islamisme, il y en a qui sont prêts à se faire sauter, c'est encore un pas plus loin, et il me semble que aussi en combattant Al-Qaïda aujourd'hui, tout ce qu'on risque de faire, c'est d'une part d'écraser un symptôme et de s'aliéner encore une beaucoup plus grande partie de la population arabe ou islamique, et de voir ressurgir plus tard un autre avatar de ce problème-là. Est-ce qu'on s'en prend bien à la racine, vous pensez?
Je pense deux choses. Je pense que la lutte contre Al-Qaïda, ce n'est pas s'en prendre à la racine, mais je pense qu'elle est nécessaire. Et je suis contre une politique d'apaisement qui consisterait à dire c'est pas véritablement Al-Qaïda le grand combat. Ce que je pense aussi est un combat culturel. Il faut s'en prendre aux inégalités, mais s'en prendre aux inégalités et au type d'enseignement et aux générations qui sont formées. Je pense qu'il faut faire les deux. Et je pense donc qu'ils ne sont pas incompatibles et il est clair qu'on ne s'en sortira pas en éradiquant Al-Qaïda. Parce que si les causes de ce type de terrorisme existent, l'effet continuera à exister dans un contexte où il est facile de se procurer des armes de destruction massive, etc. Et donc, on ne
Mais est-ce
sent.
que justement, en y allant avec la violence, c'est-à-dire la guerre, est-ce qu'on risque pas de nourrir encore plus d'autres gens qui ne seraient pas encore au stade aujourd'hui de passer à l'action, mais que cette guerre heurterait tellement que justement, on coupe une tête et il y en a 6 autres qui repoussent?
Écoutez, c'est un risque, mais en même temps, il faut quand même pas sous-estimer l'autre risque. Et l'autre risque, c'est qu'à ne rien faire, il y ait un maintien du groupe Al-Qaïda et que cela permette des attentats encore plus terribles. Donc, il y a un risque dans les deux cas. Il n'y a pas de position facile quand vous êtes confronté à une attaque d'une telle ampleur, à laquelle répond un gouvernement qui a des intérêts stratégiques et qui a une politique particulière. Il n'y a pas de solution simple. Toute solution a des risques. Et je pense que celle d'une guerre juste, accompagnée par une vigilance, en disant quand vous allez trop loin, ça ne va pas, quand vous traitez les prisonniers comme à Guantanamo, ça ne va pas, je pense que c'est la seule position tenable, la moins mauvaise, je dirais. Mais quand il y a la guerre et la violence, il n'y a pas de bonne solution.
Donc, si l'on prend les arguments des signataires de la lettre, la guerre donc est légitime car juste. Néanmoins, la manière dont est menée la guerre, on en parlait avec le cas de Guantanamo ou la campagne en Afghanistan, on peut mettre en doute un petit peu la justesse de cette guerre. Et par ailleurs, quand on se rend compte aussi le rôle négligé de l'ONU, il y a une petite critique à émettre par rapport à ça. Et troisièmement, concernant donc l'axe du mal, ne cache-t-il pas non plus une volonté belliciste large de Bush? Ne sort tombe pas du cadre finalement de cette guerre contre le terrorisme finalement.
Et oui, corollaire, où s'arrêtera-t-elle, cette guerre contre le terrorisme?
Je pense que il faut comprendre ça comme un instrument critique. C'est-à-dire, ça consiste à dire, voilà à quelles conditions nous sommes prêts à soutenir une guerre. Ce qui veut dire que si ces conditions ne sont pas respectées, nous ne la soutenons pas. C'est du moins comme ça que je le comprends. Donc ça veut dire que dire cela suppose une grande vigilance citoyenne parce que vous avez un certain nombre de conditions auxquelles vous justifiez la guerre en disant il faut minimiser les pertes civiles, il ne faut pas essayer de gagner des avantages militaires, de petits avantages militaires en faisant beaucoup de dommages dits collatéraux, il ne faut pas en profiter pour faire gagner des intérêts stratégiques, ça nous ne
Mais dans ce
soutiendrons
cas,
pas.
citez-moi une guerre juste, parce que toutes ces conditions sont des énoncés de conditions de la guerre juste. Il y en a déjà une dans le passé, est-ce qu'elle l'est aujourd'hui?
Non, je pense qu'une guerre comme
C'est
celle.
bien théorique tout ça, alors, non?
Non, je pense qu'une guerre, je pense que la guerre qu'ont menée les Anglo-Américains contre le nazisme était typiquement un exemple de guerre juste.
Est-ce que vous pensez qu'ils y seraient allés s'il n'y avait pas un monde à se partager après?
Alors ça, c'est autre chose. Non, on peut dire ça pour beaucoup de guerres, mais ici, il y a un élément d'urgence. C'est-à-dire que, bien entendu, que vous ne tirez pas des pays dans la guerre. Les Américains, pendant très longtemps, n'ont pas voulu, ni pendant la guerre 14-18, ni pendant la guerre 40-45, ni ailleurs, ni en ex-Yougoslavie, intervenir parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'intérêt stratégique et qu'ils ne voulaient pas envoyer des gens au casse-pipe ou simplement s'investir dans des combats dont ils ne voyaient pas bien la fin. Ici, il y a une
Ou l'intérêt.
urgence. Hein. Non, mais ici, il y a une urgence. Oui, mais vous pouvez, si vous adoptez une position réaliste et que vous prenez tout en termes d'intérêt, vous pouvez le faire, c'est ce qu'on appelle une position réaliste, ne pas la réserver aux Américains et ne pas croire que ces éléments d'intérêt ne se trouvent pas dans des tas de régimes qui sont très anti-américains. J'ai critiqué à la radio le directeur du Monde diplomatique, Ignacio Ramonet, grand donneur de leçons dans le monde, etc., qui va serrer la pince à Fidel Castro. Parce que pour lui, la moindre victime de la mondialisation américaine, c'est un scandale, mais aller serrer la pince à Fidel Castro avec tous les gens qui sont dans ces prisons, les homosexuels, les écrivains, etc. Bon, donc je veux bien qu'on prennent tout en termes d'intérêt, et bien entendu qu'il y a des intérêts de type stratégique, mais faisons-le pour tout le monde. Les Américains ne sont pas puissants, ils ne sont pas pires que les autres, et
Ils
à
sont
cette.
pas puissants, vous rigolez là.
Non, ils sont puissants, c'est
Ah
ça que je
oui.
dis. Non, 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 je dis, ils sont très puissants. Ils sont très puissants, ils ne sont pas pires que les autres, et je dirais même que de temps en temps, malgré tous les intérêts stratégiques, les Américains ont quand même mené des guerres dans lesquelles il y avait un certain idéaux impliqué. Et je pense que j'étais moi en faveur d'un soutien critique à la guerre contre Milosevic. Je pense que finalement, quand l'OTAN a bombardé les positions serbes et a évité la fin de l'épuration ethnique en Bosnie, c'était une bonne cause, même si évidemment on ne lance des avions et des choses comme ça que quand il y a des intérêts stratégiques, quand, non pas quand simplement les droits de l'homme sont violés, mais quand ça risque d'exploser. Ça, c'est vrai. Mais ça, c'est la réalité de la politique internationale.
Concernant toujours au regard donc de cette lettre, quand donc cette lettre servirait un petit peu de critère à la guerre juste, ce serait une sorte de prérequis minimum. Est-ce que suite à la campagne en Afghanistan, vous considérez finalement que cette guerre au regard de la lettre a respecté les critères qui ont été donnés par les intellectuels?
Alors, il est très difficile de juger certains points, mais d'autres on peut le faire. Sur certains points, par exemple, sur les dommages collatéraux, sur la manière dont la guerre a été menée, sur un ensemble de victimes civiles dont on ne sait pas encore si quelle est la part d'erreur, de dommages collatéraux délibérément choisis, éventuellement d'une certaine politique locale de terreur. Les Alliés ont fait ça à Dresde et à Hiroshima pendant la Seconde Guerre mondiale. On ne le sait pas bien, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a des choses qui sont préoccupantes, et en particulier la manière dont sont traités les prisonniers. Parce que je pense qu'il faut absolument respecter dans un combat, si ce combat est le combat de la démocratie, je ne dis pas le bien contre le mal et des choses comme ça, mais enfin quand même le combat des valeurs démocratiques contre le terrorisme, il faut strictement respecter les conditions du procès équitable et prendre le risque de ce qui se passe avec Milosevic. Milosevic est pour le moment en train de beaucoup parler. Je pense qu'à long terme, il ne retournera pas la situation en sa faveur, mais il ne pourra pas dire qu'on n'a pas laissé parler, qu'on n'a pas laissé se préparer, des choses comme ça. Et je pense qu'ici, la manière de traiter, d'humilier les prisonniers, de vouloir instaurer des tribunaux militaires d'exception, déjà la justice militaire est une justice quand même moins protectrice que la justice civile, mais des tribunaux militaires d'exception, je pense déjà que ça, on peut dire, ce n'est pas acceptable. L'axe du mal, c'est une perspective. Il n'y a pas encore eu d'acte. On peut se demander qu'est-ce qu'il va aller faire en Corée du Nord, même si le régime. Oui, alors, il est clair qu'il n'y a pas de doute que l'Iran et la Corée du Nord sont des pays qui ont un rôle dans la dissémination des armes de destruction massive.
Tandis
Ils
que
ont
les États-Unis, pas du tout, ils les gardent chez eux, mais ils en ont plein. En fait, ils disent, faites comme je dis et pas comme je fais.
Non, non, mais ça, attention, vous êtes dans la logique qui est la logique qui peut évidemment être critiquée sur le plan moral, qui est l'héritage de la dissuasion nucléaire. C'est-à-dire qu'après la guerre 40-45, quand la bombe nucléaire, quand les Américains et les Soviétiques ont eu un arsenal de bombes nucléaires, L'idée était que les bombes étant là et que c'était l'équilibre de la terreur, c'est-à-dire le fait de la destruction mutuelle assurée. Puis toute cette stratégie évolue, mais enfin c'était quand même l'équilibre de la terreur, même avec la France, même avec la Chine. Ça c'est la terreur, la contrainte du faible au fort. On peut quand même attaquer des villes, même si on est petit. Tout ça, évidemment, était à un moment amené au club nucléaire. Et la non-prolifération, c'était pas plus de pays possédant l'arme nucléaire. Bien entendu, c'était un condominium, mais c'était tout ce que vous vouliez, et ce serait peut-être mieux sans armes nucléaires, ce serait mieux sans guerre, etc. Voilà, ça, c'était la situation. Alors, c'est vrai que après la dissolution de l'Union soviétique, il y a eu un danger de dissémination, mais c'est pas simplement les Américains, c'est tout le monde qui se dit que, bien entendu, il y a des armes nucléaires pour le moment qui n'ont jamais été utilisées. Sauf les premières bombes à Hiroshima, Nagasaki, si ça tombe dans les mains de gens qui sont complètement incontrôlables, c'est extrêmement dangereux. Mais bien entendu, les Américains ont la bombe nucléaire, les Français l'ont, les Anglais
Oui, et puis
l'ont,
ils
les
refusent
Chinois,
de signer
les
des protocoles
Indiens,
sur
les
les armes
Pakistanais.
bactériologiques, etc., chose qu'ils essayent d'imposer aux autres, mais qui ne s'imposent pas à
Non,
eux-mêmes.
non, mais il y a beaucoup de critiques à faire à la politique américaine. Mais nous ne sommes pas tout à fait dans ce cas de figure. Parce que il faut bien. Quand Ben Laden et Al-Qaïda, la popularité de Ben Laden et Al-Qaïda, ça vient évidemment d'un ensemble, je dirais, de problèmes qui sont des problèmes réels, formulés d'une façon outrancière, non critique, et c'est toujours l'autre qui est coupable, etc. Eh bien, effectivement, c'est Israël, c'est les effets de l'embargo en Irak, c'est la présence de troupes américaines en Arabie Saoudite, c'est le soutien à des régimes corrompus, etc. C'est l'ordre inégal du monde. Et tout ça, ce sont des problèmes qui, pas posés comme eux les posent, et surtout pas avec leurs moyens, bon, ce sont des problèmes qui doivent être affrontés. Cela dit, il y a aussi chez Ben Laden l'idée de lutter contre ce qu'il appelle la sécularisation, c'est-à-dire une société dans laquelle l'État ne s'occupe que des problèmes d'ici-bas, séculiers, et n'impose pas une religion officielle. Et là, il y a l'immense problème de l'islam et de la laïcité, c'est-à-dire l'idée d'une terre d'islam dans laquelle nécessairement, quand vous adoptez une autre conception, eh bien, vous êtes un citoyen de seconde zone. Ça, ce n'est pas les Américains qui l'ont inventé. Ça, c'est une longue histoire dans la modernisation ratée de l'islam pour des raisons qui sont des raisons historiques. Ça, ce sont aussi des problèmes qu'il faut affronter. Et de ce point de vue-là, on peut dire que là, il n'y a pas de compromis possible. Ce que je crois, c'est que les terroristes s'attaquent au pire de l'Amérique et au meilleur de l'Amérique, les deux à la fois, et qu'il faut être capable de faire la différence. Quand ils s'attaquent au pire, il faut d'abord voir que le pire, souvent pour eux, c'est faire porter toutes les responsabilités à l'Amérique et s'exempter d'un certain nombre de responsabilités, quoique évidemment Ben Laden soit très critique vis-à-vis de l'Arabie saoudite, etc. Mais il s'appuie sur le régime des talibans, qui était un régime abominable, bon, il faut bien le dire, enfin, abominable vis-à-vis des femmes, les exécutions sommaires, etc.
Mais les États-Unis soutiennent des régimes pareils quand ça les arrange. C'est pour ça que je trouve que ces intellectuels sont très mal placés pour venir dire aujourd'hui c'est une guerre juste, parce qu'il y a des injustices tellement énormes qui se passent en général dans la politique américaine, que c'est un peu comme si on voyait Dutroux faire l'aumône à une petite fille. On dirait ah, oh, ce monsieur Dutroux est formidable, alors qu'une vraie réflexion impliquerait de dire regardez ce monsieur Dutroux qui fait l'hypocrite, il en a violé des tonnes avant.
Non, non, mais écoutez, moi je crois que je vais vous dire, franchement, mon idée c'est que votre comparaison est absurde. Mon sentiment,
C'est un
non,
peu
non, non, mais
caricatural,
vous
évidemment.
savez que c'est très caractéristique à l'ULB. Quand j'étais faire une conférence, je ne sais plus, au Rotary ou quelque chose comme ça, tout ce que je disais qui était une critique, donc de la. J'apparaissais comme un anti-américain. Avec mes étudiants à l'ULB, etc., l'idée d'essayer de donner une image de l'Amérique qui ne soit pas le cynisme total.
Mais on se demande parfois si les gens sont au courant
Attendez,
des petits fonds de la politique américaine.
les petits fonds de la politique américaine, la politique américaine, encore une fois, ça devient du temps où l'Amérique était opposé à l'Union soviétique. Tous les gens qui maintenant continuent à faire ce qu'on appelle de America bashing, taper sur l'Amérique, vous n'imaginez pas, c'est des gens qui trouvaient toutes les excuses possibles au système concentrationnaire soviétique. Et ça continue, puisque Ramonet va parler à Castro. Donc on est toujours dans un système dans lequel, bien entendu, qu'il y a d'énormes défauts dans la politique américaine. Enfin, les Américains, dans l'histoire américaine, n'ont pas fait que des choses qui sont des choses mauvaises, et je ne suis pas sûr que l'Europe ait de quoi se présenter comme étant supérieure à l'Amérique sur ce plan-là.
D'accord, mais tout le monde n'a pas cette position noir-blanc, et il me semble que justement, c'est là qu'on entre dans le rôle de l'intellectuel, parce que c'est par exemple une critique, la critique que vous formulez, c'est une critique qu'on fait souvent à Chomsky. Vous tapez sur votre propre pays et les autres, vous les critiquez beaucoup moins. Mais il me semble justement que, d'une part, les États-Unis sont quand même le pays le plus puissant au monde, donc dans une opposition où, de toute façon, tous les États ou toutes les puissances sont relativement cyniques, c'est évidemment le plus puissant qui prédomine et qui s'expose le plus aux critiques, mais surtout, et en plus de la part d'intellectuels américains, il me semble qu'un intellectuel, de par ses critiques, de par ce qu'il peut dire, peut le plus et le plus efficacement faire pression sur son propre gouvernement. Il me semble que si tous des intellectuels signent quelque chose pour parler de l'Amérique, ou pour essayer d'infléchir la position de l'Amérique, ça risque d'avoir plus d'effet que s'ils font ça pour infléchir la position de l'Irak, d'une non-démocratie, ça c'est un aveu évidemment, mais il me semble qu'on est toujours le mieux placé pour parler à son propre gouvernement que parler en face.
Non mais là vous avez tout à fait raison, et il s'agit d'un enjeu qui est un enjeu de fond sur la stratégie de l'intellectuel. Et donc, moi je pense que ces intellectuels, il y a eux et Chomsky si vous voulez, hein, si je prends les intellectuels de gauche, parce que moi je me rattache à la
gauche. Vous estimez que ceux-ci sont des intellectuels de gauche?
Non, pas tous. Mmh. Pas tous. Walzer est un type de gauche, mais il y a un compromis, hein, manifestement. Non, il n'y a pas que des gens de gauche. Mais enfin, je me rattacherai au courant de gauche, et je crois que j'aurais aussi fait des compromis pour essayer d'arriver à un document qui soit un document acceptable. Alors, le problème, je pense que les intellectuels, bien entendu que le rôle des intellectuels, ce n'est pas de soutenir les gouvernements, donner des chèques en blanc. Le rôle des intellectuels, c'est d'adopter une position qui soit une position de vigilance critique. Cela dit, vous avez là deux positions. Ou bien vous adoptez la position radicale, confortable d'ailleurs, parce que vous savez, ici, sur un campus, moi je peux commencer à dénoncer le cynisme, ceci, etc., et qui est la dénonciation de ceux qui n'exercent pas des responsabilités. Ça, il faut bien savoir quand même que c'est une position qui risque de devenir très facile, qui est la position de critique tous azimuts. Et quand cette critique, position de critique tous azimuts, de moralisme, de dénonciation du cynisme de son propre pays, mène, comme c'est le cas chez Ramonet, à cautionner un régime qui se donne des apparences de libération, etc., mais qui est un régime répressif, je me pose énormément de questions sur la cohérence de ces positions. Moi, je suis d'accord avec une position d'intellectuels qui disent « c'est difficile d'exercer le pouvoir dans les circonstances présentes, il faut réagir à quelque chose qui est quelque chose de très complexe, c'est pas facile pour nous de dire quelque chose dans la mesure où… enfin, » moi, j'étais aux États-Unis pendant tout le mois de septembre et le mois d'octobre. Bush est évidemment quelqu'un qui n'est pas du tout ma tasse de thé. Et la politique du Parti républicain derrière lui et les fondamentalistes chrétiens et toute cette histoire-là. Cela dit, comme il faut réagir, qu'il y a un gouvernement élu, que l'Amérique est ce qu'elle est et que l'acte terroriste qui a été posé est ce qu'il est, je trouve que c'est une autre attitude intellectuelle que je défends. C'est une attitude intellectuelle qui consiste dans la cohérence à dire « cette fois-ci, il y a matière à guerre juste, même si nous nous méfions énormément de la manière dont ce gouvernement va la mener, mais c'est le gouvernement élu, nous ne pouvons pas adopter une position pacifique de démission style Munich par rapport à cet événement-là. C'est difficile, il y a des risques, ça peut déborder, mais ça nous donnera peut-être une position plus forte. » Parce que si nous adoptons la position de critique tous azimuts, irresponsable et incohérente en soutenant d'autres exactions, nous perdons en crédibilité. Et moi, mon combat ici à l'ULB et ici en Belgique depuis 20 ans, c'est contre une certaine conception de la gauche qui consiste à adopter l'attitude radicalement anti-occidentale, anti-capitaliste et être complètement aveugle aux autres causes de l'oppression. Et le monde contemporain est un monde très 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 complexe de ce point de vue-là. Et dans ce cas-ci, moi je pense que l'attitude responsable de l'intellectuel, c'est d'adopter une politique de soutien conditionnel. On doit le faire dans les circonstances très graves. Une politique de soutien conditionnel consiste à dire non à Guantanamo, non si nous apprenons ceci, non à telle ou telle extension qui n'aurait pas de
sens
politique. Ah ça, le problème évidemment, c'est qu'il y a dans toute guerre un élément de censure et d'autocensure qui fait qu'on n'apprend pas toujours, on n'a pas tout de suite des informations très fiables. C'est une des difficultés. Et là, c'est le rôle des journalistes et de pousser pour obtenir de l'information. Et souvent, les journalistes font bien leur boulot, mais c'est pas facile.
Concernant rapidement donc le rôle des intellectuels, donc vous parlez donc d'une critique vigilante de leur part et d'un soutien conditionnel à une guerre qui est juste. Donc je peux comprendre votre argument, mais ne croyez-vous pas que d'un autre côté, les intellectuels en prenant une telle position peuvent finalement être utilisés par le gouvernement Bush ou être simplement utilisés comme ben voilà, les intellectuels ont montré leur accord, maintenant on peut y aller.
Caution
finalement.
Ah, s'ils ne sont pas vigilants, c'est-à-dire s'ils écrivent la lettre Et puis qu'après, le gouvernement Bush peut impunément dire, voilà, nous sommes soutenus par de grands intellectuels qui vont de Walzer à Fukuyama, à Huntington, etc., etc. Là, bien sûr, ils sont fichus. Si ils n'ont pas cette lettre comme une sorte de pacte de base en disant, c'est ceci et rien d'autre. Et s'il y a des choses qui ne sont pas claires, on va préciser notre position, parce qu'on ne peut peut-être pas tout prévoir, on peut reconnaître, bon, c'est ceci et rien d'autre. Et donc, ne vous réclamez pas de cette lettre, la lettre donne des conditions, c'est un soutien conditionnel. S'ils ne sont pas vigilants et qu'ils laissent le gouvernement faire un travail de propagande à partir de la lettre, ils sont fichus et la lettre apparaîtra et le gouvernement va s'annexer les intellectuels. S'ils ont cette tentation-là, ou certains d'entre eux, je suis radicalement contre.
Donc tout est dans leurs mains finalement.
Tout est dans la main de. C'est une façon de mettre les choses dans la main de l'opinion publique et de répéter et de dire et de répéter 1000 fois quel est l'objectif et quelles sont les raisons au nom desquelles ils soutiennent quelque chose ou ils critiquent quelque chose. Moi, je vais dans les médias pour ça. Vous le répétez tout le temps en disant non, 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 ceci, ça, ça, ça. Alors, c'est difficile parce qu'évidemment, sinon, vous vous apercevez que ces propos-là, bien entendu, vont pouvoir être utilisés. Ils vont pouvoir être utilisés, comme tout propos est utilisé, comme Ramonet s'est fait piéger par Castro. Tout propos peut être utilisé, bien entendu. Mais ici, je pense qu'il faut partir de l'idée que les intellectuels ont leurs propres critères. Ce sont des éléments critiques. Ça veut dire, nous, opinion publique, vous ne nous demandez pas notre avis d'ailleurs, vous, gouvernement américain, mais on le donne. Et on donne notre avis et on est d'accord sur la nécessité d'une guerre comme ça dans certaines conditions, et ces conditions doivent être respectées. Mais ça suppose évidemment une très grande vigilance des intellectuels et qui descendent dans l'arène publique, ce qu'ils ne font peut-être pas assez souvent aux États-Unis parce que la lettre est un petit peu tardive, hein? Bon.
Quelques citations comme ça de la lettre. La troisième valeur universelle est la conviction que notre connaissance individuelle et collective de la vérité étant imparfaite, les désaccords sur ces valeurs doivent être discutés avec civilité et tolérance sur la foi d'une argumentation raisonnable. Entièrement d'accord, mais est-ce que les États-Unis l'ont fait une fois? On revient un peu à ce qu'on disait, mais franchement, ça paraît un peu hypocrite. Même chose en vantant l'ouverture des États-Unis, ils disent, des gens accourent de partout vers notre pays pour pouvoir respirer librement et assez rapidement deviennent américains. C'est comme s'il n'y avait pas de mur à la frontière du Mexique. Enfin, on a l'impression que tout est vraiment enjolivé comme ça et que ils critiquent. Comme vous le disiez, certaines valeurs américaines, certains éléments de la politique étrangère américaine, mais ils le touchent du doigt et puis on l'a cité, on peut laisser tomber.
Mais
C'est
écoute,
pour s'en débarrasser, quoi.
non, mais je pense que si on prend les deux éléments dont vous avez parlé, le premier élément, donc, nous avons une connaissance qui est une connaissance imparfaite. Vous pouvez interpréter ça en termes laïques ou religieux, hein, en termes laïques en disant, bah, écoutez, la science progresse, on ne sait pas tout, et en termes religieux, l'homme est pécheur, il ne connaît pas la voie de Dieu, etc. Bon, ça, c'est le côté religieux tolérant, en disant, on n'en connaît pas grand-chose, donc n'imposons pas à autrui notre Église ou notre conception de l'existence. Les Américains l'ont réalisé dans leur vie interne.
Oui, ça oui.
C'est un pays qui, depuis sa création, est basé, enfin, ça s'est réalisé petit à petit, sur la séparation de l'État et des différentes confessions.
D'accord, mais il parle de, il faut discuter des différences de valeurs avec civilité. Il me semble que, par exemple, au Vietnam, c'était un problème de différence de valeurs et qu'on n'a pas discuté avec civilité.
Mais je
Mais
sais
c'est
bien.
qu'un exemple.
Non, mais je sais bien. Mais attention, d'abord, la guerre n'est plus de l'ordre de la civilité. Si la guerre. Attention, le droit de la guerre, le fait qu'il y ait, depuis la création de la Croix-Rouge, etc., un certain nombre de limites, même dans la guerre, donc ce qu'on appelle le droit de la guerre et le droit humanitaire. Hein, bon, ça humanise la guerre, mais il faut bien dire qu'on n'est quand même plus dans la civilité. Hein, on n'est plus dans la civilité. Les soldats peuvent tuer, ils peuvent pas tuer dans telle ou telle condition, ils peuvent pas se servir sur les populations civiles, etc. Alors, quand ils disent, ce sont les idéaux américains, comme ils ont dit au début de l'article, nous ne les avons pas toujours respectés. Moi, je ne dirais pas qu'ils ne les ont jamais respectés. Nous ne les avons pas toujours respectés. Ben, je pense que la réponse est dans ce qu'ils disent, c'est-à-dire que ces valeurs de civilité sont des valeurs qui sont des valeurs éminemment défendables, mais que c'est vrai que souvent les États-Unis et bien d'autres pays qui s'en réclament ne les ont pas réalisées. Donc ça, sur le problème des valeurs de civilité, moi je suis d'accord. À partir de ce qu'ils ont dit au début de la lettre, à savoir que ce ne sont pas des valeurs qui sont une auto-justification. Ce sont des valeurs qui sont proclamées et qui sont effectivement contraignantes pour tout le monde, y compris et d'abord pour nous. Eux disent nous, nous Américains, nous citoyens américains. Donc je ne vois pas quel est le problème de ce point de vue-là.
À propos de la question de l'ONU, donc ils disent, certains estiment que c'est l'ONU qui devrait prendre ces choses-là en main. Cette proposition est problématique parce que, oui, la raison, c'est l'approbation internationale n'a jamais été considérée par les théoriciens de la guerre juste comme une juste exigence. Mais il me semble qu'il n'y a pas que les théoriciens de la guerre juste qui gèrent le monde et qui décident comment les choses doivent se passer. Ils disent aussi, l'ONU, nous ne pensons pas que l'ONU soit la mieux inspirée pour décider de cette guerre. Mais est-ce que c'est vraiment les États-Unis qui sont le mieux placés? L'ONU, justement, est un accord entre tous les pays du monde, ou à peu près, et donc qui sont censés s'y soumettre. Et là, non, les États-Unis prennent les choses en main et eux estiment que c'est souhaitable, plutôt les États-Unis que l'ONU. Comment défendre ça?
Non, je vous dirais qu'effectivement, il faut voir d'où on vient quand même, hein. L'ordre international est encore, à maints égards, une sorte d'état de nature, c'est-à-dire de situation dans laquelle vous n'avez que très 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 peu de règles. Je sais bien que ça change petit à petit, mais ça change quand même très lentement. Donc auparavant, quand un pays était violemment agressé, c'est tout à fait le cas des États-Unis, sauf qu'on peut difficilement construire ça comme étant un État qui les a agressés. En même temps, ça, c'est les nouvelles formes de la violence. Quand un État était agressé, on considérait qu'il ne devait pas essayer de demander le consensus international dans la mesure où il n'y en avait pas, où il y avait des ennemis, etc. Parce que sinon, il n'aurait jamais eu le droit de légitime défense. Et donc, l'idée de la légitime défense, c'est quand vous êtes attaqué et qu'il y a suffisamment de conditions, vous avez le droit de mener votre guerre vous-même. Bon, alors, on est dans un système différent maintenant. Je ne parle pas du point de vue juridique, il y a des tas de discussions entre juristes de droit international. Ils peuvent discuter comme ça pendant des années sur le fait de savoir si c'était véritablement un acte de guerre. Ben, ce qu'il y a eu, c'est que c'est une attaque qui est une attaque énorme, c'est quand même du point de vue quantitatif, sur le territoire des États-Unis, et que le Conseil de sécurité a dit qu'ils étaient en état de légitime défense et qu'ils pouvaient prendre les moyens nécessaires. Alors maintenant, vous savez, il ne faut pas se faire trop d'illusions. On va vous dire, les Américains passent par le Conseil de sécurité. Ben, le Conseil de sécurité, c'est quand même les Américains. Puisque dans la lutte contre le terrorisme, ils ont des alliés qui ont beaucoup de choses aussi à se reprocher, qui sont les Russes et les Chinois. Et donc ils n'ont pas de droit de veto. Les Français et les Anglais sont derrière. Et donc quelque part, dans cette lutte contre le terrorisme, qui est une lutte très problématique, parce que les Chinois et les Soviétiques et les Russes ont beaucoup de raisons de lutter contre le terrorisme, mais leur politique elle-même est très critiquable. Mais donc ils n'ont pas de problème de droit de veto au Conseil de sécurité. L'Assemblée générale de l'ONU, c'est un truc informel qui peut vous voter des résolutions après 10 ans de discussion, etc. Et donc l'ONU, d'ailleurs, ce qui peut autoriser l'instance qui peut autoriser le recours à la force, c'est le Conseil de sécurité. Et dans le contexte actuel, le Conseil de sécurité, c'est vraiment les États-Unis, puisqu'ils ne rencontrent pas d'opposition. Donc la question est un petit peu formelle. Moi, je préférerais infiniment qu'il y ait une organisation internationale digne de ce nom, qui elle-même, à la limite, est une armée, et qui puisse prendre en charge comme une police internationale la défense des États.
Mais
Et
oui,
vous
mais c'est
imaginez
précisément
comment.
ce que bloquent les États-Unis en ne payant pas leurs dettes à l'ONU. Et finalement, ils prennent, eux, en tant que nation, la place d'une institution internationale.
Je sais, mais est-ce que l'administration Clinton a voulu aller dans l'autre sens? Et de toute façon, même si les États-Unis payent leurs dettes, l'ONU est l'ONU. L'ONU est évidemment totalement incapable. D'abord, je dirais, dans la charte de l'ONU, c'est pas l'Assemblée générale, c'est le Conseil de sécurité. Et le Conseil de sécurité dans la lutte antiterroriste, il y a un large consensus des 5 membres permanents du Conseil de sécurité sur une lutte antiterroriste pour de bonnes et pour de très mauvaises raisons. Et donc, d'une certaine façon, que vous passiez par le Conseil de sécurité ou que vous ne passiez pas par le Conseil de sécurité, c'est grosso modo la même chose aujourd'hui. Ça, c'est la situation. Mais le reste, l'ONU, l'Assemblée générale, alors vous avez des membres qui sont des membres non permanents, mais ils sont tous des allégeances vis-à-vis des Américains ou des Russes, etc. Donc, il y a un large consensus, et il y a des tas parce qu'il y a une considération de ce que des actes comme ça sont des actes qui doivent être totalement bannis par la communauté internationale. Maintenant, évidemment, une fois que les Américains mènent leur propre guerre, il y a certains qui disent qu'il faudrait un plus grand contrôle, mais que ce sera un contrôle de qui, puisque la situation géopolitique est ce qu'elle est pour le moment. Alors, c'est pas même si les Américains acceptaient ce que je trouve qu'ils devraient faire, de participer et de ratifier le statut de la Cour internationale de justice, c'est pas ça qui créerait, ça c'est une instance pénale. C'est après coup, si vous voulez, quand il y a eu des exactions, mais c'est pas ça qui vous crée un ordre politique internationale. Ça, c'est un immense travail.
Mais ne le faisant pas, ça paraît moins crédible quand on lit une lettre pareille,
Non,
quand
mais
même.
qui est tellement sensible à la souveraineté? Les Chinois, chaque fois qu'on veut dépasser la souveraineté, les Chinois, il n'y a pas que les Américains. Il faut bien savoir que vous avez des tas de régimes dans le monde dont la présence n'est pas quand même due nécessairement au soutien américain et des choses comme ça, et qui n'ont pas du tout envie d'un ordre international parce qu'ils ont surtout envie qu'on les laisse faire ce qu'ils veulent chez eux. Et Saddam Hussein est quelqu'un qui a été capable d'utiliser des armes chimiques contre ses propres populations civiles, les Kurdes, à une époque où ça ne gênait personne parce qu'il n'embêtait pas les gens à l'extérieur. Donc le cynisme est largement partagé. Mais donc aujourd'hui, quand il y a une attaque et qu'il y a un droit de légitime défense à exercer, bah, il se fait dans le contexte que je vous ai dit. Le contexte dans la bâtisse du terrorisme, peut-être qu'ils auraient beaucoup plus de difficultés à passer par le Conseil de sécurité. Et comme les Américains font toujours ce qu'ils veulent, bah, ils se seraient passés du Conseil de sécurité. Toute puissance dominante fait ce qu'elle veut. On est dans une situation où il faut essayer de l'intérieur et de l'extérieur que la domination des États-Unis se fasse dans une perspective qui soit une perspective acceptable. Et ça, c'est une lutte de tout le monde. Mais je pense que la démonisation de l'Amérique ne sert à rien, strictement à rien. Et donc Chomsky et les autres, je pense que c'est à côté de la plaque.
Concernant donc la réponse à l'attaque du 11 septembre, il y a aussi un discours de la part des États-Unis en disant à ses alliés, si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Donc il y avait aussi une sorte de non-choix de la part des États. Et par ailleurs, on se rend compte que les États-Unis peuvent très bien se passer du Conseil de sécurité. On se souvient des bombardements sur la Serbie qui n'ont été faits sans aucun consentement international. Donc vous ne pensez pas finalement que finalement les États-Unis peuvent utiliser une structure telle que le Conseil de sécurité quand ça les arrange, point à la ligne, et quand ça n'est pas possible, on s'en passe.
Mais tout à fait. Mais je vous dirais que moi, je vous ai donné le contexte. Ces arguments-là ne sont pas les arguments qui m'intéressent le plus. Je ne ferai pas beaucoup de juridisme au niveau international, justement dans la mesure où le droit est flou au niveau international. Mais c'est le contenu des guerres qui m'intéresse et la manière dont elles sont menées. Et donc, de ce point de vue-là, j'étais, enfin, de ma jeunesse, un total opposant à la guerre du Vietnam, évidemment un total opposant au soutien de Pinochet, au dictateur de nature d'Amérique latine, etc. Dans la guerre du Golfe, je connaissais tous les enjeux pétroliers, etc., mais j'ai quand même donné à l'époque un soutien critique parce que je considérais qu'effectivement, il ne fallait pas laisser Saddam Hussein dominer le Koweït et le reste, etc. J'ai aucune illusion sur le régime d'Arabie Saoudite, bien entendu. Dans le cas de la guerre, les attaques de l'OTAN sur la Bosnie, je considérais qu'il fallait arrêter les Serbes. Dans le cas de la guerre menée pour le Kosovo contre la Serbie, ben, j'ai aussi donné d'une certaine façon un soutien critique dans mes articles. Et ici, je fais pareil. Ça veut dire que chaque fois, je trouvais qu'il y avait quand même là une part de légitimité à la cause et qu'il fallait faire en sorte que les opinions publiques fassent en sorte que le cap soit maintenu.
Dernière citation. Nous nous engageons à faire tout notre possible pour écarter les malencontreuses tentations, arrogance et chauvinisme notamment, auxquelles les nations en guerre semblent si souvent céder. Vous avez été aux États-Unis, donc vous avez un peu l'hystérie qui règne, l'hystérie chauviniste. Est-ce que vous ne pensez pas qu'écrire ça dans un contexte pareil, enfin moi je serais un intellectuel américain, j'essayerais plutôt de dénoncer ce chauvinisme à tout craint qui frise le délire, au lieu de dire hypocritement, nous allons tenter de résister à cette tentation. On a bien dépassé ça, la tentation est complètement morte, quoi. La tentation plutôt a été totalement concrétisée, c'est-à-dire que c'est un pays absolument chauvin.
Je pense que vous avez absolument tort. Je pense, j'ai vécu aux États-Unis depuis le 11 septembre. J'étais là depuis le 1er septembre. J'ai quitté les États-Unis le 15 octobre, en pleine menace de l'anthrax. Et je peux vous dire qu'au niveau global, il n'y a loin de là, il n'y a pas eu d'hystérie chauviniste et que le peuple américain a réagi avec une très grande dignité. Et que dès le début, l'administration Bush, bon, Bush lui-même a fait quelques gaffes, a dit attention, ne vous en prenez pas aux musulmans, et que c'est vrai qu'il y a eu un sursaut patriotique, mais c'est un pays dans lequel il n'y a pas d'hystérie chauviniste. Il y a évidemment des franges, mais dire aujourd'hui en Amérique il y a une hystérie chauviniste, c'est vraiment manquer ce qui se passe et manquer la mentalité de la population. Il suffit de se balader là-bas, de voir comment les gens ont réagi, comment les enterrements de victimes et de pompiers après l'attentat du 11 septembre ont été faits. Il n'y avait pas de gestes de haine. Les hystéries chauvinistes, on sait très bien ce que c'est et on le voit de temps en temps. Il y en a eu, bien entendu, qu'il y a eu dans un pays comme ça, vous avez comme en Belgique et comme ailleurs, vous avez évidemment des débordements, vous avez évidemment des fous qui s'en sont pris à des sikhs, qui sont même pas des musulmans parce qu'ils ont des turbans et qui ressemblaient à Bin Laden, etc. Mais il n'y a pas d'hystérie chauviniste et je pense que le peuple américain, si vous prenez le peuple américain a réagi avec une très très grande, en général, avec une très très grande modération. Je pense que nous avons une vision, je ne dis pas que nous. Alors, dans l'islam, la vision des États-Unis est complètement distordue, mais la vision que nous avons en Europe occidentale des États-Unis est une vision très distordue. Nous ne savons pas très bien ce qui s'y passe. Et moi, c'est le deuxième pays dans lequel je travaille, si vous voulez, bien entendu. Je travaille la majorité du temps en Belgique. Mais enfin, je vais quand même souvent, parfois un mois par an, ou au moins 2 mois tous les 2 ans aux États-Unis. Je vis là, je travaille. Bon, mais j'étais là à ce moment-là. Globalement, vous n'avez pas d'hystérie nationaliste et chauviniste aux États-Unis. Vous n'avez pas de ce qui s'est passé, par exemple, à l'époque du McCarthyisme, où on a essayé de chauffer à blanc un sentiment nationaliste, anticommuniste et des choses comme ça. Vous ne
En ce
l'avez
moment, on demande aux citoyens d'être vigilants et de
pas.
signaler la moindre chose suspecte. Il y a des drapeaux absolument partout et tout. Non, c'est exagéré par rapport à ce qui
Mais
pourrait
qu'est-ce
être
que
une
vous
réalité.
croyez qui est exagéré? Qu'est-ce que vous croyez qui se passerait si demain vous aviez un bombardement aveugle, on lance un avion sur la centrale nucléaire de Tihange ou quelque chose comme ça, et vous avez d'énormes pertes civiles. Est-ce que vous croyez qu'après, vous, Belges, ou alors c'est du deux poids deux mesures, vous allez avoir une réaction terrible de la population, comme du temps de l'affaire Dutroux, et parfois exagérée, et bien entendu, et dans l'affaire Dutroux, le mouvement blanc, etc., ils ont un moment pété les plombs. Vous allez avoir des réactions qui sont des réactions terribles, parce que vous allez avoir un enfant, un frère, une sœur, etc., qui sont là et qui ont été déchiquetés par tout ça. À ce moment-là, commencer à dire, et attention, on fait des appels à la vigilance, mais tout le monde voudra des appels à la vigilance. Et ce qu'il faudra faire, c'est éviter que ces appels à la vigilance et cette demande de sécurité ne fassent pas en sorte qu'on en passe à un régime autoritaire, parce que, bien entendu, que tous ces attentats terroristes favorisent les éléments les plus conservateurs. L'administration
Oui, c'est ce
Bush,
qui se passe là-bas
il
aussi.
voulait un énorme budget de la défense, il ne l'aurait pas obtenu avant le 11 septembre. Ah oui, ça joue dans la main des plus conservateurs, puisque les gens ont des demandes de sécurité et sont beaucoup moins vigilant vis-à-vis de la liberté d'expression et des choses comme ça. Mais je pense qu'une des premières choses à faire, c'est de ne pas avoir une vision qui soit une vision faussée de l'Amérique. L'Amérique n'est pas ce que vous dites. Il y a des franges de l'Amérique qui sont comme ça. Mais je pense que, et tout le montre, les Américains ont réagi de façon très digne aux attentats du 11 septembre. Il n'y a pas eu de furie hystérique. Le gouvernement a attendu un mois et demi pour engager son action. Certains diront que c'est trop tôt, certains diront que c'est trop tard. Vous n'aviez pas de mouvement dans les rues disant mort aux Arabes, mort aux ceci, allez-y. Vous n'aviez pas ça aux États-Unis. Donc moi, je ne vois pas du tout où elle est cette furie hystérique. Bien sûr, il y a un nationalisme, il y a toujours une espèce de nationalisme un petit peu ridicule, le drapeau, etc. aux États-Unis qui est évidemment accentué comme à Salt Lake City quand on va prendre un drapeau qu'on a retrouvé dans. Bon, d'accord, je veux bien, mais c'est pas de l'hystérie nationaliste.
Une toute dernière question. Est-ce que le rôle fondamental, comme le dit notamment Anne Morelli dans son livre sur la propagande de guerre, on est dans le cas, est-ce que le rôle fondamental de l'intellectuel n'est pas le doute? Et dans ce cas, on vient de parler pendant longtemps de la justification ou non d'une guerre qui est menée contre Al-Qaïda et contre les talibans. Dans ce cas, est-ce que, franchement, vous signeriez la lettre? Est-ce que vous avez vu des preuves de l'implication d'Al-Qaïda?
Écoutez, je connais suffisamment de gens qui doutent quand ils ont envie de douter et qui ne doutent pas quand ils n'ont pas envie de douter. Hein? Bon. Alors, et bien entendu, l'idée de l'implication d'Al-Qaïda, enfin, on n'a pas, c'est un truc tout à fait secret et clandestin. On n'a pas de procès, on n'a pas
L'enquête
de.
aussi est secrète et clandestine,
Bien
apparemment.
sûr, comment voulez-vous qu'une enquête soit publique dans ces cas-là? Enfin, je veux dire, il y a évidemment une nécessité de secret, de renseignement et d'investigation. Donc moi, mon problème n'est pas de dire bon, que ce soit Ben Laden, que Ben Laden n'est pas véritablement le pouvoir qu'on lui donne, que ce soit quelqu'un d'autre, que le réseau soit constitué encore de façon différente, je dirais que ça m'est tout à fait égal. Je pense qu'ils ont été luttés et qu'ils ont démantelé, et ils le savaient déjà, des lieux dans lesquels il y avait la préparation, il y avait la concentration d'armes qui étaient des armes dangereuses et des choses comme ça. Il n'y a aucun doute quant au soutien direct donné par Ben Laden. Moi, je pense que si On joue sur le doute face à des gens qui n'ont absolument aucun scrupule à tuer n'importe quel innocent qui passe par là en lançant des bombes vivantes sur les tours. Je pense que si on adopte
Mais
la
attendez,
position.
non, je vous demande si c'est prouvé que c'est Ben Laden qui l'a fait, et vous dites non, si on a des scrupules face à des gens qui ont fait ça, mais rien ne prouve qu'ils l'ont fait. En tout cas, moi, j'ai pas vu de preuves. Franchement, je serais un intellectuel, j'aurais des scrupules, justement, à aller dire c'est justifié parce que c'est eux. Il y a des choses qui permettent de douter, il y a notamment une hypothèse tout à fait. Enfin, c'est pas du tout un délire du complot, genre ce seraient les Américains eux-mêmes qui ont organisé ça, mais simplement on se rend compte que les instances officielles cachent des choses de façon évidente. Il y a une hypothèse assez plausible que ce soit un terrorisme politique d'opposition en Arabie Saoudite, mais ça n'arrange pas du tout les affaires américaines. Donc on attribue ça, qui que ce soit, on l'a attribué à Al-Qaïda parce qu'il y avait déjà de gros problèmes avec Al-Qaïda et on s'apprêtait de toute façon à faire quelque chose contre Al-Qaïda.
Non, moi je pense que, bon, évidemment, pour tout et pour n'importe quoi, on peut évidemment émettre des hypothèses, mais je pense qu'il y a suffisamment d'éléments convergents dans cette situation-là, des éléments qui ont été donnés, dont certains sont critiquables, d'autres sont acceptables, en particulier par le gouvernement britannique, pour montrer qu'il y a une implication d'un réseau qui étend ses ramifications de l'Afghanistan à une partie de la Chine. Le gouvernement chinois est terrifiant, il alimente le terrorisme aux Philippines, en Indonésie, etc. Et que c'est là que se trouve le centre militaire, s'il y a un centre, ou en tout cas les différents centres militaires de l'action. C'est pas comme ça qu'on va lutter ultimement contre l'islamisme. Il faudra à un moment avoir des contacts et un combat qui est culturel et théologique. Et c'est un problème d'éducation, c'est un problème à la fois d'ouverture et de maintien d'un certain nombre de principes qui sont les principes d'ouverture, etc. Mais sur le plan militaire, ils sont. En tout cas, ils réagissent, ils font une espèce de. Si vous voulez, c'est une sorte d'enquête militaire internationale. Et ce qui est terrible, c'est qu'il faut la mener par la guerre, puisque les talibans ont refusé de livrer Ben Laden et que donc ils se sont engagés dans une activité qui est une activité guerrière.
Mais ils attendaient peut-être des preuves, justement, avant de le livrer.
Est-ce que vous allez croire? Alors, j'ai pas de doute, je ne
Mais non,
crois
mais je sais
pas.
pas, il y a un fait énorme qui a demandé une organisation énorme, et 3 jours plus tard, on sait où aller chercher le
Vous
coupable.
allez me dire que je suis dogmatique. Je ne crois pas, mais un mot de ce que dit le Mollah Omar, un mot de ce que dit Ben Laden, mais pas un mot. Tout ça, c'est du mensonge, de la propagande. Je pense qu'au niveau
Tandis que
des.
de l'autre côté.
Je pense que de l'autre côté, il y a une part de propagande, mais qu'il y a aussi, étant donné les structures démocratiques qui fonctionnent beaucoup plus difficilement en temps de guerre, qu'il y a aussi une part de fait, de vérité, de rationalité. Et donc, je ne mettrai jamais sur le même plan la politique américaine, même si au niveau américain, vous avez tous les coups tordus possibles, des services secrets, comme ça arrive pour toutes les grandes puissances. Je ne mettrai jamais sur le même plan ça. Et d'autre part, ce que dit le Mollah Omar, ou ce que dit Ben Laden, etc., c'est de la pure propagande. Ça n'a strictement. Dès qu'ils essayent de maquiller ça,
Mais non,
ça
mais ils
n'a.
n'ont jamais nié, eux. Mais bon, là n'est pas la
Oui,
question.
mais écoutez, je pense aussi que. Enfin, il y a une façon aussi chez les intellectuels qui mérite de couper les cheveux en quatre. Bon. Alors, je suis peut-être un intellectuel carré, mais cette idée de couper les cheveux en quatre consiste à dire, à la limite. Ne faites rien, on ne sait jamais, on n'est pas sûr que ce soit eux, etc. Et je pense que les gouvernements ont aussi en charge leur population. Hein? Si vous êtes élu à l'exécutif d'un pays, je pense qu'à un certain moment, il faut aussi agir pour protéger la population. Et je pense que c'est incontestablement un des buts d'un président des États-Unis qui ne pourrait pas soutenir que la population l'accuse cette fois-ci de ne pas avoir fait tout ce qu'il aurait dû faire pour protéger la population. Et donc dire qu'ils doivent avoir les certitudes absolues pour commencer dans une action militaire et qu'en attendant, etc., bon, c'est une façon de laisser les structures terroristes continuer à se développer, et je pense que c'est très dangereux. Il y a des dangers dans la guerre, encore une fois, c'est pour ça que je dis j'ai un soutien conditionnel vis-à-vis de cette guerre, mais il y a d'énormes dangers à ne rien faire et à entrer dans le jeu de la propagande adverse, qui consiste à dire on n'a pas prouvé que c'était Al-Qaïda, attention, les Américains, ils vont des victimes civiles, etc., etc. Et pour finir, alors l'anti-américanisme qui est très très ancré, je le vois bien partout avec tous les gens dont je parle, avec qui je parle, l'anti-américanisme mènerait pour finir à ne jamais soutenir une action américaine, même dans le cas où elle réagirait à des événements de cette ampleur. Et ça, moi, à titre personnel, enfin je ne suis pas tout seul, j'espère, moi je ne peux pas accepter ça.
Voilà, c'était Guy Archer, président du Centre de philosophie du droit à l'ULB. Vous avez écouté donc sa position très personnelle de soutien donc à cette lettre belliciste. Pour terminer, voilà les conclusions donc de cet appel à la guerre formulé par les plus grands penseurs américains. Je vais vous lire brièvement les grandes lignes de cette conclusion. Je pense que ça veut déjà mettre beaucoup de choses au point par rapport au ton qui a été abordé dans cette lettre. Donc les auteurs expliquent, nous nous engageons à faire tout notre possible pour écarter les malencontreuses tentation, arrogance et chauvinisme notamment, auxquels les nations en guerre semblent si souvent céder. En même temps, nous affirmons solennellement d'une seule voix qu'il est crucial pour notre nation de gagner cette guerre. Nous combattons pour nous défendre, mais nous croyons aussi nous battre pour défendre les principes de droit de l'homme et la dignité humaine qui sont le plus bel espoir de l'humanité. Un jour, cette guerre finira, ben je l'espère. Quand nous en serons là, et à certains égards même avant, un grand effort de réconciliation incombera. Nous espérons que cette guerre, en mettant fin à un fléau mondial, pourra accroître les possibilités de fonder la communauté mondiale sur la justice. Mais nous savons que seuls les pacifistes, ici comme ailleurs, pourront faire en sorte que cette guerre n'aura pas été vaine. Nous voulons nous adresser particulièrement à nos frères et à nos sœurs des sociétés musulmanes. Alors voilà, toute la lettre est plus ou moins du même tonneau. Je pense que pour certains, ils pourraient légitimer cette lettre, d'autres, pourraient avoir les cheveux droits sur la tête. D'après Guy Garcher, quand on l'écoutait pendant plus de 50 minutes, il s'agit d'un soutien inconditionné. Là, je suis d'accord. Mais dans les faits, sur le terrain, cette guerre est-elle véritablement menée de manière juste? On se le demande tous. Et puis, par ailleurs, le rôle des intellectuels aujourd'hui, comme toujours, n'est-il pas de douter? Là, pas de commentaires, parce que, on voit souvent ces intellectuels dans le cadre cette lettre plutôt être un instrument de légitimation du pouvoir et du gouvernement Bush. Si vous voulez avoir plus de détails sur cette lettre, vous pouvez aller voir sur le site internet du Monde ou du Soir. Ils en sont très fiers de l'avoir en exclusivité et en version traduite. Je pense que vous comprendrez beaucoup de choses en la lisant plus précisément. C'est teinté d'une hypocrisie un petit peu malsaine. Mais par rapport à cette lettre, je m'arrêterai là pour aujourd'hui et je ne ferai pas de commentaires. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Alter Echo. Et puis la semaine prochaine, vous aurez la chance de retrouver Nicolas et Olivier qui sont de retour des quatre coins du globe. Ciao à tous.